Il est 12h30 précise. Bonjour Adrien Toffolet.
Bonjour à tous. Un vent de pessimisme souffle sur le sommet européen qui s'est ouvert ce matin à Bruxelles. Les 27 dirigeants européens doivent tenter de s'entendre sur le plan post-Covid de relance de l'économie de 750 milliards d'euros. Des négociations très très difficiles, a dit Angela Merkel à son arrivée. Plusieurs nations, Pays-Bas en tête, demandent des réformes aux pays du sud de l'Europe en contrepartie d'une aide. Analyse de Pierre Benazet à Bruxelles et du directeur de l'Institut néerlandais pour la démocratie et le multipartisme. Au même moment en France, Jean Castex reçoit les partenaires sociaux, comme il l'avait promis. Au programme, le calendrier des réformes à venir pour sortir le pays de la crise. Le tout dans un contexte budgétaire serré. Éclairage de Marie Viennot. Dans ce journal également, l'affaire Adama Traoré avec l'ouverture de 14 nouvelles enquêtes qui vont alimenter la guerre de communication entre sa famille et la défense des gendarmes accusés de sa mort. La situation de la déforestation au Brésil avec la publication d'une étude sur la responsabilité des cultures illégales de soja. Et puis en fin de journal, nous reviendrons sur la vie et l'œuvre de Zizi Jeanmaire, la danseuse et chanteuse de musical, est décédée ce matin à 96 ans. Aboutir à un plan de 750 milliards d'euros, c'est l'objectif ambitieux du sommet des dirigeants de l'Union européenne ce matin à Bruxelles. Aujourd'hui et demain, les 27 doivent se mettre d'accord sur un plan de relance massif de l'économie pour faire face aux conséquences désastreuses de l'épidémie de Covid-19. Et tous sont loin d'être sur la même longueur d'onde à ce sujet. Pays-Bas, Suède, Danemark et Autriche notamment. En direct de Bruxelles, nous rejoignons Pierre Benazet. Bonjour. Les 27 sont arrivés ce matin avec beaucoup de pessimisme quant à l'issue du sommet.
Alors, on a quand même vu ce jeudi matin deux optimistes. D'abord, la présidente de la Commission européenne, puis le président du Conseil européen, Charles Michel, pour qui un accord est à portée de main, pourvu qu'il y ait du courage politique. Mais en face, vous l'avez dit, Angela Merkel prévoit que ce sera très très difficile. Et la vedette de ce sommet, le premier ministre néerlandais, Mark Rutte, voit moins de 50% de chances de parvenir à un accord. Il faut dire que Mark Rutte est la figure de proue de ce club dit des frugaux, qui comprend désormais aussi la Finlande, en plus des quatre autres. Ces pays-là ont une position très clair, ils ne rejettent pas le besoin de solidarité européenne que préconise le couple franco-allemand et que réclament les pays du Sud, mais ils veulent y mettre des conditions. Il s'agit pour eux de contrôler que les fonds européens seront utilisés à bon escient. Sous les gouvernements successifs de Mark Rutte, par exemple, les Néerlandais estiment avoir procédé à des réformes douloureuses des retraites et du marché du travail. Et donc, en échange des subventions que proposent France et Allemagne pour 500 milliards d'euros, ils estiment par conséquent être en droit d'attendre de la discipline budgétaire. Les pays du Sud, eux, honnissent la perspective de voir l'Europe leur imposer un contrôle, chacun ayant en tête le souvenir de la Troïka qui supervisait l'aide européenne à la Grèce.
Et à la tête du groupe des frugaux, merci Pierre Benazet, les Pays-Bas et leur Premier ministre, vous l'avez dit, Mark Rutte, qui veulent conditionner les aides à ceux appelés les cigales, pour user d'une métaphore animale. Italie, Grèce, Espagne, jugés trop dépensiers, pas assez réformateurs. Un positionnement qui peut s'expliquer par la culture néerlandaise, sa culture marchande en particulier, selon Thijs Berman, ex-eurodéputé social-démocrate et directeur aujourd'hui de l'Institut néerlandais pour la démocratie et le multipartisme.
Justement, ceux qui sont les commerçants, les grands entrepreneurs, la banque néerlandaise disent tous, mais il faut aider le Sud parce que les Pays-Bas vivent de l'Europe. Notre économie est européenne. Donc, ce côté calviniste et commerçant fait que le débat vient des deux côtés. D'un côté, on ne va pas aider les pays paresseux qui n'ont jamais assaini leurs finances. D'autre côté, nous avons besoin de l'Europe parce qu'on est dans cette économie. On ne serait rien sans cette économie.
Est-ce que les Néerlandais sont radins?
C'est une question très difficile. C'est un pays radin. Disons, pour le Néerlandais, il est extrêmement important de savoir que leur argent est dans de bonnes mains. Et de gauche, droite, tous pareils. Il y a une frugalité dans la culture des Pays-Bas, c'est certain. Il n'y a pas chez nous de Champs-Élysées, il n'y a pas chez nous de grandes avenues, etc. Il faut rester très modeste, surtout. Surtout modeste. Et la richesse, on le cache un petit peu.
Thijs Berman, interrogé par Louise Baudet. En France, maintenant, il n'a eu de cesse de répéter depuis son arrivée à Matignon qu'il est un grand partisan du dialogue social, de la parole aux actes Brette. Jean Castex accueille depuis ce matin les partenaires sociaux à sa table, syndicats, patronat, face au Premier ministre qui a également convoqué pour l'occasion des membres de son gouvernement, Elisabeth Borne au travail, Barbara Pompili à l'écologie, Bruno Le Maire à la relance, Olivier Véran aux solidarités et Brigitte Bourguignon à l'autonomie. Les grands dossiers à venir, on les connaît. Le plan de relance économique, sociale et écologique, ou encore plus éruptif, la réforme des retraites et de l'assurance chômage. Au-delà du calendrier et des précisions qui seront annoncées aujourd'hui, reste à savoir si les discussions avec les partenaires sociaux se font sous la pression budgétaire, car les comptes sociaux se sont fortement dégradés ces trois derniers mois, Marie Viennot.
En 2020, le déficit des retraites devait être de 5 milliards, mais finalement ce sera 30 milliards. Pour l'assurance chômage, il était prévu 900 millions de déficit, mais les mesures sur le chômage partiel, l'augmentation du chômage et les reports de cotisations ont fait plonger les comptes et on prévoit 26 milliards de déficit en 2020. 26 milliards qui s'ajoutent à la dette accumulée par l'assurance chômage avant la Covid-19. Au total, donc, la dette de l'assurance chômage serait même proche de 63 milliards. Rien que pour les retraites et l'assurance chômage, on s'achemine donc vers un trou proche des 100 milliards et il y aurait donc tout lieu de s'inquiéter et de mettre la pression sur les partenaires sociaux pour qu'ils acceptent un calendrier de réforme. Sauf que le gouvernement vient tout juste de régler cette question de la dette sociale abyssale en la transférant à la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, via un projet de loi qui a été adopté hier à l'Assemblée nationale. Cette caisse, qui ne devait plus prélever une partie de la CSG et de la CRDS en 2024, a été prolongée jusqu'en 2033. Une façon d'augmenter les impôts dans le futur sans avoir à le reconnaître dans le présent. Mieux que cela encore, sur les 132 milliards de dettes qui ont été transférées à la CADES, il y a non seulement le passif de dette de l'assurance chômage et le déficit de la Sécu pour 2020, mais aussi 40 milliards de déficit de la sécurité sociale à venir pour 2021 et 2022. Les partenaires sociaux seraient donc fondés à dire que dans l'immédiat, il n'y a pas d'urgence financière à reprendre les réformes de l'assurance chômage et des retraites, mais seront-ils écoutés ?
François Asselin de la CPME vient de sortir de cette réunion. Il annonce que Jean Castex repousse l'entrée en vigueur des dernières mesures de la réforme de l'assurance chômage au 1er janvier 2021. Nous reviendrons sur les discussions de Jean Castex avec les partenaires sociaux dans le journal de 18h. Le Premier ministre doit s'exprimer à l'issue de la réunion. Il sera également l'invité du journal de France 2 ce soir. Frédéric Vidal promet une solution pour tous les bacheliers. La ministre de l'Enseignement supérieur, invitée de France Info ce matin, annonce qu'environ 585 000 lycéens ont eu une proposition d'admission sur Parcoursup. En revanche, 9500 restent toujours en attente de place. C'est 3500 de plus que l'année dernière. Nous travaillons avec l'ensemble des établissements, dit la ministre, pour qu'ils soient publics ou privés, pour trouver des places pour ces jeunes. Un nouvel épisode dans l'instruction de l'affaire Adama Traoré. On ne les compte plus 4 ans après. C'était le 19 juillet 2016. La mort du jeune homme dans une caserne de gendarmes, quelques heures après une course-poursuite et son arrestation à Beaumont-sur-Oise. Ce matin, c'est au passé judiciaire d'Adama Traoré et ses liens éventuels avec les gendarmes impliqués que la justice va s'intéresser désormais, avec l'ouverture, Florence Turme, de 14 nouvelles enquêtes.
Ces investigations étaient en réalité prévues, décidées après l'audition de 2 témoins au début du mois, notamment l'homme chez qui Adama Traoré s'était réfugié juste avant son interpellation, un homme dont la famille réclamait depuis longtemps l'audition et qu'elle accuse aujourd'hui de faux témoignages. Son avocat Yacine Bouzrou a déposé plainte contre lui en qualifiant ses déclarations d'incohérentes et contradictoires. L'enjeu de cet interrogatoire consistait à déterminer l'état de santé dans lequel se trouvait le jeune homme à l'arrivée des gendarmes, mais à l'issue de cette audition, les deux parties ont livré des récits diamétralement opposés de ce qui s'est dit dans le bureau des juges d'instruction. Selon les avocats des gendarmes, le témoin a conforté sa première version et l'état d'épuisement dans lequel Adama Traoré était arrivé à son domicile. À travers ce seul épisode, on mesure à la fois la complexité de ce dossier, les tensions et la guerre de communication qu'il génère. La défense des gendarmes estime qu'il est temps d'y mettre un terme, mais les juges d'instruction viennent d'accepter la demande de la famille Traoré, entendre de nouveaux témoins de la première interpellation et joindre au dossier l'ensemble des procédures judiciaires dans lesquelles Adama Traoré a pu être impliqué pour établir s'il pouvait exister un contentieux avec les gendarmes. Les magistrats refusent en revanche pour l'instant la reconstitution des faits réclamés par la famille dans l'attente de la nouvelle expertise confiée à quatre médecins belges. Résultat attendu pour janvier 2021. À ce stade, les quatre expertises judiciaires contestées par la famille Traoré dédouanent les gendarmes. Elles ont toutes mis en avant des antécédents médicaux pour expliquer le décès.
Florence Sturm, et pour le quatrième anniversaire de sa mort, la famille Traoré organise une nouvelle marche ainsi qu'un festival. Ce sera demain à Beaumont-sur-Oise. Un mot de l'épidémie de coronavirus dans le monde, avec la situation aux États-Unis qui reste le pays le plus endeuillé, avec 138 000 décès et un nouveau record de cas recensés, 68 000 ces dernières 24 heures. Le Brésil également qui annonce 2 millions de cas de contamination recensés sur son sol. Reconfinement partiel en Espagne, en Inde, en Allemagne ou encore en Israël qui décide ce matin la fermeture des restaurants, salles de sport, magasins, centres commerciaux, coiffeurs ou encore musées. Fermeture tous les week-ends pour éviter un confinement général. Direction le Brésil maintenant, où la déforestation gagne du terrain chaque jour, poussée par la culture de soja à destination des élevages de porcs ou de volailles en Europe. Une étude publiée hier dans la revue Science révèle d'ailleurs qu'entre 18 et 22% des exportations de soja du Brésil vers l'Union européenne sont issues de terres déforestées illégalement. Constat inquiétant qui tombe au moment où l'UE et le Mercosur finalisent un accord de libre-échange. Les précisions de Jean-Mathieu Albertini.
Chaque année, l'Union européenne achète plus de 13 millions de tonnes de soja au Brésil et un cinquième de ce soja est issu de terres déforestées illégalement. Grâce à un logiciel puissant, les auteurs de l'étude ont pu analyser individuellement 815 000 propriétés agricoles. Ils ont pu ainsi, pour la première fois, identifier précisément qui vend du soja produit sur des terres issues de la déforestation illégale. Et ça change tout, explique l'un des auteurs de l'étude, Raoni Rajan, parce que pendant longtemps, le gouvernement a allégué qu'il était trop difficile de surveiller l'ensemble de la chaîne de production du soja.
Ce que l'étude montre est que nous avons aujourd'hui les moyens pour surveiller et réduire drastiquement la déforestation. Par contre, il faut utiliser ces moyens pour faire le ménage dans les chaînes de production qui y sont liées. Mais sans volonté politique, principalement au ministère de l'Environnement, nous n'arriverons pas à nous débarrasser des acteurs liés à la déforestation.
Or, pour le moment, le gouvernement de Jair Bolsonaro fait tout pour réduire au maximum les mesures de protection de l'environnement, mais pour l'auteur de l'étude, ces nouvelles informations très précises devraient permettre d'accentuer la pression sur le gouvernement brésilien afin de mettre en place une lutte véritablement efficace contre la déforestation illégale.
Pour elle, descendre l'escalier d'un music hall avec un manteau de plumes, c'était une espèce de panache, de triomphe. On apprend ce matin la disparition de Zizi Jeanmaire, grande dame du music hall, décédée ce matin à l'âge de 96 ans. Bonjour Benoît Grossin.
Bonjour.
René Jeanmaire dit Zizi, la ballerine, partenaire de vie du chorégraphe Roland Petit, la chanteuse avec ce truc en plumes qui, durant sa longue carrière, a côtoyé les plus grands noms.
Et notamment Roland Petit, dès l'enfance. En 1933, alors qu'elle n'a que 9 ans, Zizi Jeanmaire rentre à l'école de danse de l'Opéra de Paris, comme Roland Petit, le même jour, à la même heure, affirme-t-elle. Et il quitte la maison la même année également, en 1944. Zizi Jeanmaire disait avoir une admiration profonde pour Roland Petit et n'avait qu'une envie, le séduire. Elle y parvient en 1948 au Ballet de Paris qu'il vient de fonder au Théâtre Marigny et dont elle devient la danseuse étoile en incarnant Carmen l'année suivante. Un jour, a-t-elle raconté à France Culture, Roland est arrivé à la répétition et m'a dit « J'en ai assez de te voir avec tes boucles, les cheveux longs, je veux une Carmen androgyne, je vais te faire couper les cheveux ». Zizi Jeanmaire ne les laissera plus pousser après que le ballet lui a révélé, je cite, « sa puissance de charme et de dramaturgie qu'elle pouvait enfin donner sur scène ». Ce ballet de Carmen va se jouer dans le monde entier, notamment à New York, 7 mois durant. Zizi et Roland, au début des années 50, se font remarquer aux États-Unis en participant à des films à Hollywood, à des revues à Broadway, avant de se marier en 1954 et d'avoir leur fille, Valentine. De retour en France, Roland Petit profite de son expérience américaine pour se lancer dans un nouveau genre au Théâtre de Paris, puis à l'Alhambra. Le numéro, mon truc en plume, dans des costumes d'Yves Saint-Laurent faits de Zizi Jeanmaire avec ses jambes, que certains qualifient d'interminables, une figure emblématique du musical auquel elle consacre ensuite toute sa carrière, sauf quelques incursions au théâtre, au cinéma et dans la chanson. En 1961, le couple inséparable chante Irma la Douce.
C'est étrange avec les anges.
Va, c'est pas compliqué du tout. En somme.
Et Zizi Jeanmaire avait accordé une série d'entretiens à France Culture, c'était en 2010, dans l'émission À voix nue au micro de Martin Penney. Elle est revenue sur sa carrière et son épanouissement sur scène. Entretien à retrouver en intégralité sur franceculture.fr. Zizi Jeanmaire décédée ce matin, donc à 96 ans. Le temps cet après-midi, les nuages gris vont progressivement disparaître pour laisser place au soleil, surtout à l'ouest et dans le sud-est. Un léger voile sera présent sur le reste du pays. Les températures évolueront entre 18 et 32 degrés, 19 à Brest, 20 à Dunkerque, 27 à Paris et Lyon, 23 à Bordeaux et Strasbourg et 31 à 7.